Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Biotop. Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter RDIWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr ou d'écouter évidemment Radio Saint-Ferréol sur le 94.2. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Elsa Carré et Nadine Brun. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes représentante avec nous aujourd'hui de l'association Artisans du Monde Valence, de l'antenne de Valence, puisqu'il y en a un certain nombre un petit peu partout en France. Et j'aimerais que aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous puissions à la fois présenter Artisans du Monde d'une manière un petit peu générale et puis se concentrer sur ce que vous faites dans la Drôme à partir de Valence. Qui veut commencer, par exemple, par un petit historique? Depuis combien de temps existe l'association? Nadine Brun.
L'association existe, je crois que la date de fondation de l'association, c'est 1974, mais c'est vraiment le tout début de cette fondation. C'est une histoire avec l'abbé Pierre au milieu. L'abbé Pierre qui, à la suite des catastrophes qui s'abattaient sur le Bangladesh, s'est dit de retour, il faut faire quelque chose. Et il a créé les premières aides, je crois qu'on va dire aides dès le départ, en relation française. France-Bangladesh, village de France, ville de France-Bangladesh. Et puis très vite, il s'est aperçu, et c'est le fameux proverbe qui se dit un petit peu partout, si on donne un poisson à celui qui a faim, le lendemain, il aura encore faim, mais si on lui apprend à pêcher, il pourra se débrouiller. Et finalement, c'est ce proverbe qui illustre relativement bien l'action d'Artisans du Monde, c'est-à-dire on ne donne pas, on ne fait pas de la charité, mais dans le sens donner pour donner. On aide les pays du Sud, qui sont en difficulté, à, par eux-mêmes, arriver, par le commerce juste, je pense, arriver à une vie plus digne. Donc je crois que c'est le but d'Artisans du Monde, une vie plus digne pour tous.
Et les pays du Sud en particulier, et donc oui. C'est ce que l'on appelle le commerce équitable. Voilà. À partir de cet instant-là, vous voyez au nom de l'association, l'association se lance aussi dans un certain nombre d'autres pays. Et donc vous cumulez comme ça, on va dire, plein de pays ressources en limitant, c'est le principe du commerce équitable, tout ce qui est intermédiaire, sur-emballage, enfin tout un tas de choses qui sont de l'ordre de l'industrie et du capitalisme. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ça, Elsa Carré?
Donc Artisans du Monde, nous promouvons le commerce équitable à travers donc trois domaines d'intervention principaux. Donc on a avant tout nos boutiques, qui sont le lieu où on vend et où on informe les acheteurs sur ce qu'est le commerce équitable, quelle plus-value. On a aussi très souvent la possibilité de parler de nos producteurs que nous connaissons, et notamment en artisanat. Ensuite, on a le deuxième volet qui est tout l'aspect éducation, qui est là vraiment une sensibilisation, une conscientisation du citoyen en tant que tel pour l'informer déjà des inégalités mondiales existantes, de l'inégalité des mécanismes aussi au niveau du commerce international, et lui peut-être mettre en évidence à quel moment, quel rôle lui peut jouer en tant que consommateur dans ce commerce mondial. Et enfin, le dernier aspect qui est tout aussi important, c'est le plaidoyer. C'est donc tout le travail de pression qui est fait au niveau des décideurs politiques et économiques pour qu'aussi les choses changent par le haut de la pyramide, par les lois qui sont prises, les décisions qui sont prises, et par une mobilisation de l'opinion publique au travers des manifestations, des pétitions, différentes choses. Et donc vous parliez pour la limitation des intermédiaires. Il y a effectivement tout un travail qui est fait d'abord de regroupement des producteurs en coopératives ou en regroupement de producteurs, où ils ont donc à s'organiser entre eux pour voir comment fonctionner de façon démocratique, comment prendre des décisions, etc., etc. Cette coopérative ou ce groupement de producteurs travaille très souvent en lien direct avec la centrale d'achat qui est Solidar Monde, qui est basée à Vitry et qui est la centrale d'achat d'Artisans du Monde. Et donc ils travaillent sur un vrai travail de partenaire Je pense que c'est ça qui est vraiment important. C'est pas du tout, comme disait Nadine, de l'aide. On est vraiment sur une relation partenariale dans le temps où on co-construit ensemble de la façon dont on va travailler, les prix, le design des produits aussi pour qu'ils puissent ensuite se vendre en France. C'est quand même assez important de vendre au final.
Je pense qu'on ira un petit peu plus loin sur l'aspect éducatif, le volet éducatif dont vous parlez. Mais j'aimerais qu'on comprenne un petit peu pourquoi avoir choisi justement le volet commercial comme première approche. Et si ce n'est pas effectivement de l'aide à des pays qui ont été asséchés par le commerce mondial, qu'est-ce que c'est alors ?
Artisans du Monde a choisi le commerce équitable, a choisi le commerce. Il est équitable, mais c'est le mot commerce. Il y a plein de façons d'être en relation avec les pays du Sud, mais c'est le propre de l'histoire d'Artisans du Monde. C'est peut-être lié à la façon dont ça a commencé au départ, avec cette relation induite par l'abbé Pierre. Mais on se dit que le commerce mène le monde, à tort ou à raison, mais il le mène gravement en ce moment, on pense. Et on pense surtout que le commerce peut engendrer une relation équitable et ne plus être dans l'inéquitable. C'est notre façon à nous de voir. On pense que la société actuelle et l'économie actuelle est dangereuse et dure pour les plus petits. Et donc, Artisans du Monde vraiment s'implique dans cette relation commerciale où on veut montrer que quelque chose peut changer. On n'est pas dupe. On ne pense pas que le monde, d'un coup de baguette magique, va se transformer et va appliquer le commerce équitable d'une façon pleine, parfaite. Mais on pense qu'en montrant que ce commerce qui mène le monde d'une façon dure, on l'a vu, peut être petit à petit une relation avec des partenaires, des vrais partenaires. Voilà.
Et pour confronter justement le plaidoyer qui va aller présenter un certain nombre de mesures sans doute qui devraient améliorer à la fois cette partie équitable du commerce, mais aussi, j'ai vu un petit peu sur les panneaux de l'exposition que vous faites en ce moment en rue Joseph Reynaud, qu'il y avait aussi une réflexion autour de l'environnement, du développement durable, de l'écologie. Faire du commerce avec des pays du Sud à grands coups de bateaux et d'avions, c'est pas très... Il y a un moment donné où ça va coincer dans votre modèle, non ?
Ça peut sembler paradoxal, en effet, mais il faut savoir que la plupart des produits qu'on vend sont des produits qui n'existent pas en France. Hein. Aller chercher des plantations de cacaoyers en France ou
production
de café, ça va être très compliqué. Donc c'est vraiment un accent qui est mis sur ces produits-là phares qu'on ne trouve pas en France. Comment Artisans du Monde s'inscrit vraiment dans le développement durable, hein ? On pense, pour nous, le commerce équitable, que c'est un moyen d'appui pour le développement durable en respectant différents critères qui ne sont pas que justement environnementaux, mais qui sont aussi des critères sociaux, avec un respect des droits humains, des droits de la personne, de la dignité humaine. Ce mot dignité, il nous semble vraiment important. On a aussi donc ces critères économiques, avec le paiement d'un prix juste, ce qui est pour nous quelque chose vraiment d'important, de pouvoir couvrir les coûts de production du producteur et lui permettre de se rémunérer un salaire qui lui permette, comme on disait, de vivre dignement lui et sa famille. Ça fait quand même partie d'un article de la Déclaration humaine des droits de l'homme et qui est très rarement respecté dans énormément de pays. Donc c'est pour ça que ça nous semble très important. Et puis ensuite, tous les aspects politiques, avec, comme je vous disais, une gestion démocratique dans les coopératives, les aspects culturels, parce que c'est aussi par l'artisanat l'envie de montrer aussi en France ce qui peut être fait dans d'autres pays en termes d'artisanat, en termes d'ingéniosité, de créativité. Il y a des choses très, très intéressantes qui sont faites et qu'on ne connaît pas. Et c'est aussi présenter tout ça aux acheteurs de France.
C'était pour vous titiller, hein, puisque il est évident que c'est moi, en tout cas, par principe, je trouve ça intéressant de s'attaquer en premier justement à cet artisanat et à ces produits, on va dire par exemple les denrées alimentaires, dont les prix ont été fixés par des vieux accords coloniaux. Donc c'est très bien. Et c'était simplement un peu pour la provocation. Concentrons-nous maintenant un petit peu plus sur l'antenne de Valence. A-t-elle une ancienneté, la même ancienneté que j'imagine pas que le siège de base, mais...
Valence commence en 1984, une première petite boutique rue du Pont du Gard, je pense. Donc une toute petite boutique avec bien sûr que des bénévoles qui se sont reliés, des gens très 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 motivés qui, dans un premier temps, ont fait... Alors je vais employer un mot peut-être un petit peu exagéré, mais vraiment se sont lancés avec toute leur conviction dans ce combat pour arriver à faire connaître ces produits.
Allons un petit peu plus loin, justement, vous avez cité bénévoles, depuis le début on parle d'une association, et Artisans du Monde fonctionne évidemment avec des bénévoles. C'est vraiment une partie intégrante de votre fonctionnement qui est quand même une espèce de grosse machine. Comment ça se passe et combien y a-t-il de salariés quand même?
Alors Artisans du Monde Valence, on a la grande chance d'être deux salariés, ce qui est très très rare. On a donc une salariée sur la boutique, qui est vraiment en charge des commandes, de la gestion des stocks, de l'approvisionnement en boutique, etc. De l'organisation des bénévoles aussi pour tenir les permanences. Et moi-même, donc, qui suis salariée, là, vraiment sur le volet éducation. Très souvent, on a des postes qui sont un peu séparés, en fait, entre les deux. Donc, c'est très rare d'avoir deux postes. Quant aux bénévoles, on a une soixantaine de bénévoles, il me semble, sur Valence, hein, au moins actifs, hein.
Actifs, une quarantaine peut-être, soixantaine qui sont inscrits comme bénévoles. D'accord. Et une quarantaine qui sont régulièrement à la boutique pour tenir la boutique, pour aider à, je sais pas, en ce moment on reçoit beaucoup de produits pour étiqueter tout bêtement des tâches. Et une autre partie des bénévoles sont un peu plus dans l'éducation. Ce sont aussi des bénévoles qui accompagnent Elsa, donc la salariée, dans le domaine de l'éducation.
Il peut y avoir aussi plusieurs boutiques par département. Par exemple, là, vous êtes les seuls sur la Drôme.
Alors non, en Drôme-Ardèche, on est 6 boutiques.
D'accord.
Il y en a une à Annonay, une à Privas, une à Montélimar, une à Romans, une à Valence. Et il me semble que j'ai les 6. On a 6 en Drôme-Ardèche, mais il y a uniquement des salariés sur la boutique de Valence. Donc voilà, c'est aussi un travail de collectif. Hein. On essaye de faire des temps de rencontre, des temps d'échange ensemble pour justement essayer de soutenir ces boutiques qui sont un peu plus petit niveau et qui ne fonctionne uniquement avec des bénévoles et pour qui c'est parfois lourd. Il faut savoir quand même qu'une boutique, c'est 3 permanences par jour, 3 permanences de 2 personnes, donc ça fait 6 personnes par jour qui doivent être mobilisées uniquement sur la tenue de la boutique, sans compter, comme vous le disait Nadine, l'étiquetage, le travail d'éducation, enfin voilà, tous les autres bénévoles encore.
Et puis des petites périodes de rush, genre
type
Noël,
Expo Ventadi, et voilà. Expo Ventadi aussi, Noël, ouais.
Et ça, c'est peut-être un nouveau, un autre volet dont vous n'avez pas parlé depuis le début, c'est que vous vous déplacez aussi pas mal, il y a des marchés, et puis ce type d'expo-vente, alors ça prend quand même un certain temps. Combien vous en faites par exemple en une année?
De grosses expos comme ça, c'est deux. Saillant et Die. C'est Saillant au mois de juin, à peu près, mai-juin, et Die novembre.
Dans le but de s'excentrer de Valence un petit peu et de venir toucher le fond de la vallée, ou simplement parce que c'est aussi des endroits où ça marche bien?
Non. Je pense qu'au départ, il y a une relation qui existe entre des personnes de Die ou de Saillant, par exemple, qui nous demandent de venir. Donc, à Die, ça existe depuis de nombreuses années. La relation est faite avec des gens de Die qui nous ont demandé de venir, avec la mère de Die qui nous avait proposé sa salle dans un premier temps. Donc, quelque chose qui a été créé depuis quelques années, qui est devenu une nécessité presque pour nous et puis aussi pour certaines personnes de Die qui nous disent « Ah, on est content de vous revoir, donc ça fait vraiment plaisir ». Donc, c'est une relation commerciale, mais pas commerciale. Je pense qu'il y a dans l'exposition plein de documents. Vous avez vu l'exposition qui est dans l'entrée, mais également plein de documents à disposition, des pétitions aussi. On arrive avec vraiment nos trois piliers du commerce équitable, c'est-à-dire la boutique qui s'est déplacée. On peut dire ça, la boutique s'est un petit peu déplacée à Die, mais également avec le plaidoyer, donc pétition, et avec l'éducation. On est là aussi. Alors là, ça tombe mal cette année parce que c'est les vacances, mais habituellement, des classes viennent aller voir l'exposition, on fait des interventions ou on peut se déplacer dans les classes aussi.
Et donc ça, c'est à la demande de personnes, on va dire localement, c'est pas votre initiative?
Je pense que c'est pas notre initiative parce qu'on peut pas imaginer de faire une exposition comme ça, ça peut pas nous venir. C'est des relations interpersonnelles qui ont fait que ça a été possible.
Bon, voilà. Donc on peut lancer aussi un appel, si des gens sont intéressés pour n'importe quoi, vous êtes prêts à vous déplacer
N'importe voilà. Quoi Mais c'est pas n'importe quoi.
Non, mais j'allais dire, plutôt que n'importe quoi, je veux dire n'importe où dans le département, on pourrait, voilà,
ou
dans le cadre...
Ou souvent aussi, on fait des marchés dans le cadre d'événements avec d'autres associations, comme par exemple à Valence, le 17 novembre, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, il y a un marché bio, éthique et local. Et donc là, Artisans du Monde a un stand, donc aussi dans des cadres comme ça, ou Graines de Cocagne qui
vont
organiser des
choses.
Il y a
d'autres interventions qui se font dans...
Plus ponctuelles et qui n'est pas exclusivement une expo-vente Artisans du Monde. Là, pour le coup, on est avec d'autres acteurs et d'autres associations qui proposent d'autres choses.
Eh bien maintenant, concentrons-nous sur ce qui nous intéresse dans ce sujet Biotopes, le volet éducation, le troisième, deuxième, premier volet de Artisans du Monde.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
En compagnie de Elsa Carré, vous êtes animatrice d'Artisans du Monde à Valence. Mm-hmm. Nous allons nous concentrer sur le volet éducatif et éducation populaire de Artisans du Monde, justement. Qui a porté ce projet d'éducation populaire ? Et donc là, on a envie de vous entendre rappeler que ça fait partie d'entrée de jeu du projet.
Voilà, exactement. Artisans du Monde a été créé donc en 1974 sur une initiative de l'abbé Pierre avec ses trois piliers. Dès que l'association a commencé un peu à se formaliser, il y a tout de suite eu cette envie, pas uniquement de vendre des produits de commerce équitable, mais aussi d'informer la population. Vendre et informer, c'est vraiment nos deux valeurs importantes. Donc l'éducation a toujours fait partie d'Artisans du Monde, de même que la boutique par la vente et ainsi que le plaidoyer.
Alors, est-ce que vous pouvez décrire en quelques mots une action d'éducation populaire produite par Artisans du Monde ?
Donc, on intervient sur de très nombreuses thématiques, les inégalités mondiales, le commerce équitable, bien évidemment, la sécurité alimentaire. Voilà, donc on a différentes thématiques sur lesquelles on intervient très ponctuellement par des outils justement participatifs d'éducation populaire. Et on a aussi des interventions plus projets, où là, on intervient à plusieurs reprises auprès d'un même groupe pour essayer d'aller plus loin et d'approfondir une thématique en particulier.
Qui sont les personnes destinées par par ces actions ?
Toutes les personnes intéressées, de la primaire, adultes sans limite d'âge, hein, voilà, que ce soit dans un cadre scolaire, dans un cadre de loisirs, dans un cadre... voilà, on est même prêt d'intervenir auprès d'élus, si des élus sont intéressés par nos interventions.
Combien coûte l'action d'éducation populaire ?
Nos interventions sont au prix de 60 euros de l'heure, plus à ajouter le prix des produits s'il y a un désir de dégustation. Pour le cadre des projets, c'est quelque chose à co-construire très en amont avec la personne intéressée pour avoir des possibilités de faire des demandes d'aide financière au niveau de la région, du département, etc.
Et quels sont vos principaux clients, j'allais dire, entre guillemets, de ce type d'action éducative ?
Alors, beaucoup de lycées, parce qu'on est énormément soutenu par la région Rhône-Alpes, donc qui donne possibilité à des lycées, d'avoir accès gratuitement à ce type d'intervention. Aussi les maisons familiales et rurales et les lycées professionnels.
Un petit peu du bilan, y a-t-il des points de blocage particuliers à mener ce type d'action ? Est-ce que vous arrivez à évaluer un petit peu ?
Alors absolument pas, c'est très compliqué en fait d'évaluer l'impact de nos interventions. Il faudrait qu'on ait une visibilité à moyen ou long terme, ce qui est impossible, on ne suit pas les personnes auprès de qui on intervient. Il y a un travail d'ailleurs qui va être lancé au niveau national avec la plateforme Educasol, qui regroupe les acteurs de l'éducation à la solidarité internationale et au développement, qui vont faire ce travail d'évaluer l'impact de ce type d'intervention sur les comportements citoyens par la suite. On espère que ça a un impact.
Pour compléter Elsa, de temps en temps, on est très rassuré quand, par exemple, à la boutique ou dans une de nos interventions, on rencontre un nest jeune qui a grandi et qui nous dit « Ah, mais j'ai été sensibilisé par une de vos interventions et depuis, je fréquente assidûment le commerce équitable, par exemple. » Voilà. Mm-hmm. Donc, on se dit « Ah, ce qu'on a pu dire en primaire ou au collège, ça a eu un écho. » Ça nous rassure, ça nous motive, mais on ne peut pas le quantifier. Voilà.
Mm-hmm. Nadine Brun, y a-t-il quand même des points de blocage dans le déroulement même d'une action, par exemple auprès d'un lycée ?
Généralement, c'est plutôt très positif parce que les enseignants qui nous font venir sont des personnes qui sont déjà sensibles à la question du commerce équitable, hein, qui sont déjà interrogées là-dessus, donc qui sont déjà un peu ouverts à notre cause, si on peut dire. Et puis justement, ce côté d'intervention assez ludique, différent de ce qui peut être fait d'habitude, ça les intéresse beaucoup et généralement auprès des jeunes, ça passe très bien en plus. Justement parce qu'on se positionne pas du tout en tant que on va vous apprendre et vous allez écouter ce qu'on va vous dire. L'idée c'est vraiment d'échanger, on est ouvert à entendre tous les points de vue et justement c'est très intéressant d'avoir aussi des points de vue contradictoires et de pouvoir expliquer pourquoi on a cette position et d'échanger autour de ça. Pas vraiment de point de blocage, si ce n'est effectivement peut-être cette difficulté à communiquer sur nos actions en termes d'éducation parce que on n'a pas de personne qui ait vraiment fait une formation là-dedans. C'est un travail, la communication. Donc voilà. Et puis aussi parce qu'on est reconnu officiellement en tant qu'acteur d'éducation populaire par un agrément de l'éducation nationale, mais on n'est pas encore reconnu au niveau vraiment des établissements du terrain.
Comment vous contacter ?
Vous pouvez nous appeler à la boutique Artisans du Monde Valence au 04 75 56 34 27, donc sur les horaires d'ouverture, à savoir 10h à midi et demi et de 14h à 19h du mardi au samedi. Et donc voilà, vous demandez Elsa Carré et puis on devrait vous passer...
Et avez-vous un site internet ?
Alors, on a un site internet artisansdumonde.org,
au niveau national.
Voilà, au niveau national, où il est possible de retrouver notre contact mail. Il y a toute la liste de toutes les associations Artisans du Monde France. Donc, ça peut être aussi intéressant pour quelqu'un qui bougerait dans la France. Et puis, donc, sinon, j'ai aussi une adresse mail sur laquelle il est possible de me contacter, qui est donc un peu une adresse mail à rallonge, mais ADM, les initiales d'Artisans du Monde, .valence-du-6 éducation sans accent @orange.fr.
Capsule. Ce volet éducation qui va à la fois, vous le disiez, dans le cadre d'expositions, voire de stands, j'en sais rien, vous l'amenez avec vous de toute façon puisque c'est partie intégrante, soit vous le présentez carrément pour des écoles, on en a entendu tout à l'heure, mais pour des lycées aussi, des collèges, pour des projets. Alors, première question, est-ce que c'est vous qui présentez cela ou est-ce que, encore une fois, c'est une demande qu'on vous fait ?
Alors tout dépend. Jusqu'à présent, c'est très souvent des personnes qui nous contactent, avec qui on est auprès de qui on est déjà intervenu ou qui justement connaissent une personne, etc. C'est très souvent, on se rend compte, des relations interpersonnelles et qui ensuite nous rappellent chaque année ou nous font des demandes assez régulièrement pour des interventions. Alors en fait, on a deux types de choses. On a à la fois des interventions ponctuelles, donc qui vont être là sur une thématique très précise pendant 1h30, 2h, on vient et on propose notre thème, on échange. Alors elles sont toujours assez participatives et ludiques, les interventions. C'est pas du tout du... On vient pas faire un cours, une leçon, c'est pas du tout ça l'objectif. Et ensuite on a un deuxième aspect qui est plus des interventions type projet, où là on va intervenir 3 fois, 4 fois auprès d'un même groupe, ce qui va nous permettre à la fin d'arriver à créer quelque chose ensemble. Alors quand je dis créer quelque chose, ça peut être tenir un petit stand, par exemple, à une occasion particulière. Ça peut être faire des panneaux d'affichage pour expliquer au reste de l'établissement scolaire ce qu'est le commerce équitable. Enfin, tout est envisageable ensuite. Mais là, on va beaucoup plus en profondeur, du coup, auprès des personnes auprès de qui on intervient.
Alors tout de suite, une question qui découle. Si ce sont que des gens avec qui vous avez déjà fait des partenariats et vous me disiez hors antenne, oui, mais on ne sait pas trop qu'on a ce volet éducation.
On pêche vraiment au niveau de la communication. En fait, on n'est pas bon, quoi. On sait très peu communiquer, bien communiquer sur ce qu'on fait. On fait très souvent des très bons événements et il y a peu de gens parce qu'en fait, on n'est pas bon communicant. En effet, là, on a créé récemment des plaquettes qui reprennent un peu les listes thématiques de ce sur quoi on intervient, qu'on essaye de diffuser auprès des établissements. Mais c'est vrai que tant qu'on ne connaît pas une personne, vous avez beau envoyer à tous les CPE de Valence, au final, ça passe sous leurs yeux. Ils ont beaucoup de propositions de différentes choses. C'est dur d'aller un peu plus loin. Mais attention, quand on dit qu'on intervient toujours auprès des mêmes personnes, c'est les enseignants qui nous font venir. Les élèves changent d'année en année. C'est quand même bien. C'est pratique.
Bon, j'espère.
Et puis oui, aussi, on n'intervient pas que auprès des publics scolaires. On intervient aussi dans les centres sociaux, auprès d'adultes aussi. Les préparations concours infirmiers, éducateurs spécialisés. Enfin, voilà, on intervient vraiment auprès de tout type de public.
Alors, pouvez-vous nous décrire une action type, par exemple ? Là, vous parliez hors antenne de ce qui va se passer sur le lycée de Valence et puis aussi sur le lycée de Die. Alors, on va commencer par Valence et puis
alors,
après, on se rapprochera.
Donc là, sur le lycée de Valence, donc c'est un lycée professionnel agricole, le lycée du Valentin, et ça s'inscrit dans le cadre du Festival Alimentaire, qui est un festival national de projection de films documentaires sur justement la thématique de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, qui est la thématique nationale d'Artisans du Monde pour cette année. Et donc dans ce cadre-là, on est en partenariat avec une enseignante du lycée du Valentin et donc on va intervenir auprès de 3 classes donc à partir de cette exposition qui a été faite par le CFSI, le Centre français de la solidarité internationale. Et c'est une exposition, pareil, qui revient sur toutes ces questions. Alors, j'aime beaucoup le titre, c'est « La fin sans fin ». Et avec cette grande question, conduire ou manger, il faut choisir. Sur la thématique des agrocarburants et de l'accaparement des terres dans le monde.
Alors, on précise un petit peu, quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est la possibilité pour les pays de déjà s'auto-subvenir eux-mêmes avant de vendre éventuellement leurs denrées alimentaires pour du carburant, mais...
Alors, il y a 2 choses. Il y a la sécurité alimentaire qui est la possibilité de nourrir son peuple. On peut nourrir son peuple de quelque façon que ce soit. Ça, c'est la sécurité alimentaire. Ensuite, la souveraineté alimentaire, c'est la possibilité de choisir de quelle façon on va le faire en étant moins dépendant des importations, des exportations, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment la souveraineté alimentaire, quelque chose qui nous semble important parce que, finalement, très peu de pays aujourd'hui ont vraiment le choix de quelle façon ils souhaitent nourrir leur population, pour plein de raisons.
La première, c'est que c'est qu'ils sont souvent exploités par des entreprises extérieures.
Voilà, il n'y a que les prix qui sont fixés à un niveau mondial et qui ne sont pas du tout réalistes par rapport au contexte local. Il y a une mise en concurrence de produits locaux avec des produits qui sont importés et qui sont encore moins chers une fois qu'ils sont importés parce qu'ils ont été subventionnés tellement avant qu'ils sont vendus à un prix dérisoire et que les paysans au niveau local ne peuvent même plus vendre leurs marchandises. Voilà, il y a plein de mécanismes qui font que c'est très compliqué pour certains de vendre leur nourriture, en effet.
Alors donc, très concrètement, comment se passe cette intervention auprès des lycéens?
Très concrètement, alors celle-ci, elle est encore un peu moins concrète parce qu'on va, ça va être une première. Hein. Donc l'idée, ça va être au niveau des panneaux, on a différentes petites animations. Par exemple, je pourrais vous donner l'exemple du débat mouvant, qui est une animation un petit peu originale, où on propose une affirmation du type l'agriculture paysanne et familiale peut nourrir le monde, par exemple. Et puis, en fonction de si les personnes sont d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation, elles créent deux groupes. Et ensuite, elles développent des arguments entre elles au sein de ces groupes. Et ensuite, c'est un échange d'arguments pour essayer de convaincre finalement des personnes de l'autre groupe. Donc, c'est une façon originale de débattre, où l'objectif est vraiment de convaincre l'autre et pas voilà, de... Donc voilà, il y a des petites animations comme ça. Et donc autour de chaque panneau, comme ça, on va avoir différents types d'animations. Ensuite, vous parliez donc de DI, parce qu'à DI, c'est encore différent l'intervention donc à DI. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une journée en fait où trois classes vont vivre trois interventions auprès de trois associations différentes. Donc Amnesty International, l'ASTI et Artisans du Monde. Et ensuite, on aura un temps de bilan-échange entre les trois associations et les trois classes. Et donc pour nous, Artisans du Monde, qu'est-ce qu'on va présenter? Alors on nous avait demandé une présentation du commerce mondial. On s'est dit, si on arrive et qu'on commence à leur parler OMC, FMI, droits de douane, etc., ça va être vraiment très compliqué, et pas du tout ludique, ni très peu intéressant. Donc on a choisi de faire ça sous forme un peu ludique. Alors je vais essayer d'en dire pas trop, au cas où s'il y a des jeunes de 10 qui écoutent, qui ne savent pas de quoi il va s'agir. En gros, ils vont devoir produire. On va en faire d'eux des producteurs de façon intensive. Il va falloir qu'ils produisent des formes. Et ensuite, nous aurons quelqu'un qui aura en charge de représenter la demande globale. Les jeunes vont produire, hein, être très productivistes, pour vendre à la demande globale, qui représente en fait la demande au niveau mondial. Et il va se passer différents événements en fonction de si quelque chose est trop produit. Si... En fait, l'idée, c'est vraiment de représenter au niveau d'une classe et d'une heure et demie d'animation, le fonctionnement un peu, enfin, certains
ce
mécanismes...
Ce qu'a donné l'Organisation mondiale du commerce.
Voilà, certains mécanismes qui se passent dans le monde. Donc, ils vont vivre eux-mêmes l'injustice qu'ils vont ressentir certaines fois parce que ben, d'un coup, il y a un dégraissement des prix très important parce qu'il y a trop de production du même produit au même moment, donc d'un coup les prix vont être diminués de 50%. Donc voilà, en fait finalement ils vont vivre ce que peuvent ressentir certains producteurs dans d'autres pays, avec pour idée à la fin d'en arriver à débattre justement sur ce fonctionnement, cette organisation, qu'est-ce qui serait possible de proposer comme alternative et comment le commerce équitable ben, s'inscrit dans une alternative possible.
La population a envie d'aller là où ça lui coûte le moins cher et où la limite que ça détruise un certain nombre de populations en passant, c'est pas le problème puisqu'on est chacun dans notre...
En fait, j'ai l'impression que c'est pas le problème tant que les gens sont pas trop au courant. Donc tant qu'on laisse les gens vraiment effectivement dans l'ignorance de pas informer, c'est un peu l'effet papillon, hein, ce qu'on fait ici a des conséquences là-bas, tant qu'on le voit pas ça va, et puis par contre le jour où on voyage un peu, où on a l'occasion de rencontrer des gens, là d'un coup ça prend sens finalement. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment d'informer. Ensuite il y a certains qui font le choix effectivement de la qualité au profit du prix, hein. Ça arrive, on a des personnes aussi qui sont de faibles revenus, qui viennent à Artisans du Monde parce qu'ils nous disent voilà, comme on sait que le thé, le café, le sucre, ça vient forcément des pays du sud, on pourra jamais faire autrement pour ça, et ben au moins sur ces produits là de première nécessité, on les achète en commerce équitable. Tout est question de choix finalement. Après, c'est, je pense que le plus important, et c'est vraiment le rôle de l'éducation, c'est informer. Ensuite, chacun à sa conscience et en fonction de son expérience, de ses moyens, de tout ça, fait son propre état des lieux, son propre jugement et prend ses décisions. On ne veut pas du tout imposer ou moraliser quoi que ce soit.
Vous avez donc un rôle d'éducation populaire. Exactement. Est-ce qu'il est reconnu au niveau national ?
C'est compliqué, on est beaucoup plus visible par nos boutiques que par notre rôle d'éducation. Et,
oui.
Et du coup, c'est aussi pour ça que pêche la communication, parce qu'il faudrait presque appeler chaque établissement et chaque personne et expliquer ce rôle d'éducation d'Artisans du Monde. Si à terme, on arrivait effectivement à être reconnu en tant qu'éducateur populaire et que des enseignants qui traitent, notamment, je sais qu'en seconde, il y a une thématique qui est nourrir le monde. Donc ça colle exactement à nos sujets d'intervention, bah, qu'ils étaient prêts à effectivement nous contacter parce qu'ils sont intéressés pour une autre façon d'introduire ce cours. ça serait une grande victoire. Officiellement, en fait, on est agréé par l'éducation nationale. On a l'agrément en tant qu'acteur d'éducation populaire.
On n'est pas assez reconnu par la population éducative.
Exactement. Voilà. Merci pour cette précision.
Merci Elsa Carré.
Merci à vous.
Et merci Nadine Brun pour cette présentation de l'action d'Artisans du Monde, plus particulièrement à Valence.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.